conservé par son travail qu'il accomplit présentement à l'égard des siens dont nous avons la figure ici dans le lavage des pieds. Le même apôtre nous dira, comme il est lui, nous sommes nous aussi. Il ajoute, dans ce monde, la différence qu'il y a entre Christ et les siens, précisément, c'est qu'il a laissé le monde, alors que, il dira en Jean 17, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais je les ai envoyés dans le monde. La différence, c'est que lui a laissé le monde alors que nous sommes encore dans le monde. Mais comme résultat de ce qu'il a fait, eh bien, comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Mais de quel soin nous avons besoin pour que nous le saisissions un peu, alors que nous le faisons si pauvrement. Et de quelle grâce le Seigneur use envers nous pour nous le faire goûter alors que nous sommes encore sur la terre.
Une jouissance particulière de ce qui résulte de la communion avec le Père. On en trouve quelque chose à la fin du chapitre 16. Quant au verset 32, le Seigneur dit aux siens, l'heure vient et elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il y a donc, dans la communion avec le Père, pour ceux qui sont encore sur la terre, au milieu des difficultés, une ressource particulière, réelle, quand tous ceux qui sont autour se retirent en quelque sorte, il y a quelque chose qui demeure et dont le Seigneur a joui lui-même, et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et le Seigneur ouvre cette ressource-là, mais qui passe par l'intelligence du récit qui suit le premier verset du chapitre.
Dans le verset 3, nous trouvons que, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. Il est question du Père et il est question de Dieu. Et dans l'Évangile selon Jean, par exemple dans le chapitre 3, il est question de Dieu. Quand Nicodème vient rencontrer le Seigneur, et dans le chapitre 4, le nom du Père est révélé. Le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, de tels qu'il adore. Quand il est question de Dieu, il est question de Dieu qui habite la lumière inaccessible. Il est souvent souligné notre responsabilité. Et quand il est question du Père, il est question de la grâce, de la communion, de la relation dans laquelle le Seigneur nous a introduits vis-à-vis de Dieu. Alors, il va passer de ce monde au Père. Il a reçu du Père toute chose. Sa grandeur est soulignée. Mais il retourne à Dieu. Lui seul, dans sa perfection, pouvait ainsi retourner à Dieu. Dans la lumière. Et celui qui nous révèle cette nouvelle relation avec le Père, cette communion avec ce Dieu qui est dans la lumière inaccessible, cette relation du Père qui vient dans sa grâce pour nous, eh bien lui va s'abaisser. Et la place qu'il prend là, une place de serviteur, avant de prendre cette place de serviteur, eh bien, ce qui est souligné, c'est sa seigneurie. Il est le seigneur de tout, il va être le serviteur. Je crois que pratiquement toujours dans les évangiles, quand il est question de l'abaissement du Seigneur, quelque part, pas loin, sa grandeur est soulignée. Jamais, par exemple, quand le Seigneur Jésus vient au baptême de Jean, dans l'évangile selon Matthieu, il descend Il est baptisé comme les autres qui étaient là du baptême de la repentance, lui qui n'avait pas besoin de repentance. Il est là au milieu de ceux qui disent « Nous nous repentons, nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. » Il dit à Jean « Il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Il se place là, mais aussitôt la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il s'abaisse. Le Père manifeste son plaisir et sa grandeur. Ici, il est le Seigneur de tout et il va s'abaisser pour être le serviteur.
Le Seigneur est en perfection le serviteur de l'Éternel. Plaisir de l'Éternel prospère en sa main. Sans cesser d'être serviteur de l'Éternel, maintenant volontairement, il devient serviteur de ses disciples. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Il était à souper. Verset 2, il se lève du souper. Verset 4. Il était à souper, c'est le souper de la Pâque. Et les circonstances de la suite du chapitre montrent que lorsque Judas a pris sa part du repas de la Pâque, il est sorti et que la scène a été instituée après le départ de Judas et Judas n'y a pas touché. Ici, c'est le début du repas. Le Seigneur se lève et maintenant prend une autre position. Il était assis, il était à table avec ses disciples, c'est le signe merveilleux de la communion. Pour que cette communion soit réelle, il fallait auparavant, notre frère l'a bien dit tout à l'heure, il fallait auparavant qu'il soit lavé, c'est-à-dire purifié, des souillures de la marche. Il ne s'agit pas actuellement de salut et de don de vie éternelle. Ces choses sont déjà réglées par ailleurs, pour ainsi dire. Et Pierre ne l'avait pas compris. Il s'agit maintenant que le Seigneur s'occupe des siens en grâce pour les purifier, des souillures pratiques de la vie, pour nous, de la vie chrétienne, de la vie dans ce monde. Quand le Seigneur se lève du souper, il se ceint, c'est la position du service, et maintenant il s'abaisse pour se mettre aux pieds des disciples et laver leurs pieds et les essuyer avec le linge dont il était saint.
Le fait que il ôte ses vêtements, met de côté ses vêtements, verset 4, ça indique symboliquement qu'il prend cette position nouvelle, justement, qui est une position dans la gloire, en fait, symboliquement ici, pour s'occuper des siens, pour exercer cet office qui rend ses disciples capables d'avoir une part avec lui, comme il le dit plus loin, une part avec lui, c'est-à-dire d'avoir communion avec lui. Et on peut dire que les gestes ici qu'il fait ont un sens symbolique. Ensuite, il se ceint comme serviteur et il verse de l'eau dans le bassin. Ce bassin nous faisant penser justement à la cuve des reins d'autrefois qui se trouvait dans le parvis du tabernacle, qui nous fait penser aussi à la mer de Fente qui se trouvait dans le temple à Jérusalem. Et il va laver les pieds des disciples, ce qui nous montre bien que c'est en relation avec la marche pratique, la conduite de ses rachetés, de ceux qui sont ses disciples. Puis même, il va les essuyer avec le linge dont il était saint, et on a dit que par ce geste, il efface même, dans un sens, le souvenir qui a pu être laissé, ce mauvais souvenir de la faute, la grâce va l'effacer.
Peut-être pourrait-on dire qu'il y a dans ce geste de lavage des pieds un signe d'accueil et d'amour selon l'habitude qu'il y avait lorsqu'on avait fait une marche à pied, sans pieds nus souvent ou dans des mauvaises chaussures. On avait les pieds meurtris et salis dans le chemin et il était tout à fait dans les mœurs, nous le savons bien. C'était un acte d'accueil et de bienveillance, de prévenance vis-à-vis de celui qui arrivait. C'est ce que n'avait pas fait Simon, le, le pharisien, et tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds. Et demain, alors c'est ce qu'a fait Abraham, n'est-ce pas, dans Matthieu 18, Genèse 18, avait tout de suite demandé qu'on prenne de l'eau pour les pieds des visiteurs. Et on pense aussi à d'autres, en particulier Abigaïl. Abigaïl qui, dans son humilité, lorsqu'elle a été demandée comme épouse pour David, elle a dit, mais moi je suis une servante pour laver les pieds des esclaves de mon Seigneur. C'est un acte vraiment d'une grande beauté morale, pas forcément uniquement pour s'occuper des manquements et des souillures, mais pour s'occuper de la fatigue et donner du repos, donner manifestation d'accueil. Il me semble que c'est peut-être pas tout à fait le point central de chapitre 17, mais il me semble que ça peut se dire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Rien n'est plus touchant que les soins du Seigneur. C'est ainsi que la grâce fond le cœur, c'est la seule chose qui soit capable de fondre notre cœur. Alors c'est d'autant plus touchant qu'il peut s'agir justement de souillure et de purification de souillure. Mais l'acte du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur n'est-il pas de prier pour nous et justement de prévenir les fautes? C'est quand même essentiellement préventif, l'action du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur. Et ce qui est curatif, c'est plus le caractère d'avocat pour rétablir la communion qui a été immanquablement interrompue si nous avons laissé quoi que ce soit intervenir dans nos vies, même dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. L'eau, semble-t-il, symbolise ici la parole. Nous savons que mais la parole qui est appliquée au cœur du croyant par le Saint-Esprit, mais d'une personne convertie déjà, qui a la vie de Dieu. Et la différence se fait clairement dans les deux passages qui suivent, où le corps lavé tout entier, ce n'est pas la même pensée que les pieds ou les mains. L'eau est sortie comme le sang du côté percé du Seigneur Jésus. Et Jean 19, Jean est le seul évangéliste qui nous en parle. L'eau symbolise la purification et le sang symbolise l'expiation. Les deux choses sont opérées par la mort de Christ. Maintenant, c'est la valeur de la parole de Dieu, la valeur de l'eau qui sort du côté percé du Christ mort, cette valeur-là pour la purification, la restauration de l'âme du croyant. Alors, on l'a dit clairement, je pense qu'il n'est pas hors de place de relire le passage, c'est dans Exode 30, la cuve d'airain. Notre frère a cité tout à l'heure aussi qu'il y avait la mer de fonte. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans les rois, c'est 2000 bahts sa capacité, et dans les chroniques, 3000. Je ne sais pas s'il y a une raison spirituelle. Exode 30, les versets 17 à 21. Tu feras une cuve d'airain, sous bassement, pour s'y laver. Tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Et on ne trouve, sauf erreur, en Jean 13, que le lavage des pieds. Les mains sont en rapport avec les actes, les pieds en rapport avec la marche. Et en définitive, est-ce que la marche n'est pas le résultat des actes et surtout de l'état du cœur? Alors, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau afin qu'ils ne meurent pas et qu'ils s'approchent de l'autel pour faire le service. C'est une des choses, je crois que c'est la septième, des choses que nous devons passer de génération en génération. Nous n'avons peut-être pas été assez fidèles, nous, notre génération, pour la passer aux générations de nos fils. On passait un certain nombre d'enseignements dans la loi de Moïse d'une génération à l'autre. On gardait un souvenir, on répondait aux questions des enfants. Ils laveront leurs mains et leurs pieds, ce sera un statut perpétuel pour Aaron et pour sa semence en leur génération. Alors c'est très clair, la cuve d'airain devait être utilisée par les sacrificateurs, la famille sacerdotale, et tous les croyants le sont maintenant, en figure, dans l'état chrétien, avant d'exercer le service dans la maison. Et la première chose qu'on rencontrait dans Jean 14, c'est bien la communion. De sorte que ne prétendons pas jouir de la communion avec le Seigneur Jésus s'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas réglé. Il faut d'abord que l'eau, la parole, intervienne pour nous purifier. Et Jean 17 est d'une telle beauté. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ils sont sanctifiés, mis à part, pour le service et pour la communion. On ne peut pas prétendre servir Christ, servir les saints, être en témoin devant ce monde, si nos cœurs ne sont pas en ordre. En pratique, comment pouvons-nous réaliser cet état pour nous relever d'une chute, même en pensée, une mauvaise pensée qui traverse mon cœur, qui pourrait prétendre que ces choses n'arrivent pas chaque jour dans la vie chrétienne? Eh bien, c'est l'application de la parole par la puissante action du Saint-Esprit. Alors, Exode 30, en rapport avec le service de la maison, de la famille sacerdotale, et Nombre 19, ne lisons qu'un verset, probablement, Nombre 19, c'est en rapport avec les souillures de la marche. On remarquera d'ailleurs que le sang est présent dans le sacrifice de la génisse rousse, mais c'est l'eau de purification qui est présentée, parce que là encore, il s'agit de la purification des souillures de la marche dans la vie pratique des saints. Verset Nombre 19, donc une génisse rousse sans tare, tu feras aspersion de son sang, verset 4, devant la tente d'assignation, on brûlera la génisse devant ses yeux, sa peau, sa chair et son sang, le sang est brûlé. Et on faisait une eau de purification, cette eau de purification était utilisée au troisième jour et au septième jour. Alors disons simplement, sans entrer dans les détails qui sont un sujet par lui-même, que dans le cas de la génisse rousse, il y avait deux aspersions successives. La première aspersion semble, il me semble, est l'application pour nous de la restauration de l'âme dans la communion avec le Seigneur Jésus, parce que cette communion a été interrompue. Et au septième jour, on comprend mieux les choses. On a plus horreur de soi-même et la grâce de Christ remplit plus notre cœur. Comme J.N.D. l'a dit dans les études sur la parole, on se rend compte, quelle horreur pour nous, et en même temps quelle reconnaissance, que nous avions trouvé pour un temps notre plaisir, le plaisir de notre cœur naturel, dans les choses qui avaient rendu nécessaire l'agonie de Christ sur la croix, les souffrances expiatoires de Christ. On a plus conscience de l'horreur du péché et de l'extraordinaire grâce qui nous en a délivrés et qui couvre notre misère.
J'ai remarqué que ces activités du Seigneur comme souverain sacrificateur et comme avocat, nous n'avons pas à lui demander de les accomplir. C'est lui-même qui les accomplit à cause de sa fidélité envers nous et de son amour envers nous. Et nous pouvons bien penser qu'il est bien plus vigilant que nous ne le sommes à l'égard de tout ce qui nous concerne.
Il est bien possible que, justement, les sacrificateurs qui s'approchaient de la tente d'assignation n'auraient pas eu en soi une juste appréciation de l'état de souillure de leurs pieds. Mais ils devaient passer à la cuve des reins. C'était pour entrer dans le lieu saint, on devait passer à la cuve des reins. Et c'est vrai pour nous aussi. Je crois que, évidemment, il faut bien comprendre que tout ce dont nous parlons maintenant concerne le croyant. Nous verrons que ce que le Seigneur en dit un peu plus tard. Il s'agit de rétablir, si nécessaire, cette communion avec le Seigneur qui a été, qui est, hélas, interrompue souvent par des négligences dans notre marche, un manque de veille, de prière. Et je crois que chacun de nous sent bien combien nous avons besoin de ce lavage d'eau par parole qui est là pour nous laver et que nous retrouvions cette communion avec le Seigneur sans laquelle notre âme est malheureuse. Nous ne pouvons plus être heureux que dans une communion réalisée avec le Seigneur. Et en même temps, il faut le dire, nous le lui devons, n'est-ce pas? Le Seigneur désire que cette communion soit réelle et profonde, et beaucoup de choses, si nous n'y prenons pas garde, viendraient, ne serait-ce qu'une des pensées, une mauvaise pensée, viendrait l'interrompre. Et le Seigneur, dans son amour, se présente, et bien sûr, ici comme notre avocat, qui nous délivre de ces souillures que nous rencontrons dans le monde. J'étais frappé de ce verset que nous avons dans Exode 38, je le lis, Exode 38, il est encore question de la cuve des reins, et il est précisé au verset 8, qu'il fit la cuve des reins et son soubassement des reins avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je pense qu'il y a un enseignement là que
que le Seigneur peut-être voudrait nous faire, si on peut dire, découvrir les miroirs des femmes. Nous savons très bien ce à quoi un miroir sert. C'est à voir un peu comment se présente, à s'occuper de soi, si je puis dire, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, c'est tout à fait différent de cette image que nous trouvons dans l'épître de Jacques, où la parole de Dieu aussi nous est présentée comme un miroir. Et le miroir de la parole me montre ce, dans quel état je suis aux yeux de Dieu, ce qui a besoin justement d'être mis en ordre. Comment je dois régler ce qui ne convient pas dans ma vie. Mais alors, il y a ce qui doit être laissé de côté, cette occupation de nous-mêmes qui, trop souvent, hélas, nous empêche vraiment d'être devant Dieu dans l'attitude qui convient, occupée de Christ et non pas occupée de nous, bien sûr, de la mauvaise manière. Je comprends bien qu'il y a des moments où nous devons... en effet, comme on dit, passer à la cuve des reins, de façon à être purifié par cette parole qui nous sanctifie, qui rétablit la communion avec le Seigneur. Mais faisons attention de ne pas y passer plus de temps qu'il ne faut. Il y a un homme de ce monde qui a dit que, dans une de ses pensées, que plutôt que de ne rien dire de nous, nous préférons encore en dire du mal. Alors, vous voyez, c'est peut-être très symbolique que ces miroirs des femmes ont été utilisés pour faire la cuve des reins. Et puis maintenant, ce n'est plus l'homme qui doit paraître, mais c'est Christ qui doit être formé en nous. Et c'est à sa suite, dans sa ressemblance, que nous plairons à Dieu, n'est-ce pas ? Que la communion sera vraiment celle que Dieu désire pour nous.
Et il y a donc deux côtés dans cette purification. Ils apparaissent bien dans la première épître de Jean. J'aimerais y faire référence. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, à la page 191 de notre version, nous lisons « Mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. » C'est le côté de Christ. C'est celui qui est devant nous ici, particulièrement, en Jean 13. Nous avons un avocat. Et pourquoi est-ce que la purification peut s'opérer? C'est parce que lui est la propitiation pour nos péchés, parce qu'il a accompli sur la croix une œuvre de propitiation qui rend Dieu propice, favorable, parce que là, il a accompli l'œuvre qui nous a ainsi entièrement purifié devant Dieu, parce que son sang a été versé et qu'aussi l'eau de purification, comme on l'a dit, a coulé également avec le sang de son côté versé. Témoignage d'une œuvre accomplie. Ça, c'est le côté de Christ. Il est notre avocat et il travaille. Lorsque nous avons manqué, lorsque nous avons péché, il travaille dans nos consciences et dans nos cœurs pour justement nous faire saisir là où nous avons manqué, ce que nous avons fait réellement devant Dieu, et aussi le motif profond qui nous a amené à cette chute, à ce manquement. C'est lui qui travaille, il travaille par sa parole, qui va elle aussi nous purifier. Mais ça, c'est le côté de Christ. Mais il y a aussi notre côté, qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait de la confession et du jugement de nous-mêmes. Et ce côté de la confession personnelle que le croyant doit confesser, doit dire à Dieu ce qu'il a fait, ce en quoi il a manqué, nous le trouvons dans la même première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est ce qui nous incombe. Et il ne faut pas oublier ce côté-là aussi, bien aimé.
Est-ce que justement, on vient de nous dire que l'eau est une image de la parole. On a bien compris par les versets qui nous ont été lus. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir quand même ici qu'il nous est pas l'enseignement, c'est pas que nous devons nous laver, mais que vraiment c'est l'œuvre, le travail du Seigneur Jésus à notre égard. Le verset qui avait été lu dans l'épître aux Éphésiens, c'était que c'est lui-même qui a aimé l'assemblée et c'est lui-même qui lave justement, comme il est dit, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par lavage d'eau par la parole. C'est son travail. Et on a certainement déjà souligné, mais pourquoi tout ça? C'est le motif, c'est son amour pour ceux qui sont appelés les siens. Quand on prend cet évangile, on voit que le Seigneur Jésus est venu chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle déception! Mais justement, le Seigneur Jésus a trouvé sur cette terre, non pas parmi ceux qui étaient normalement les siens, mais parmi ceux qui ont cru en lui, il a trouvé ceux qui l'ont aimé, qui l'ont reçu, qui l'ont reconnu, quelques-uns, et il les appelle ici les siens. Et dans ce verset premier qu'on a lu, c'est les siens qui étaient dans le monde, lui montent, mais les aima jusqu'à la fin. On a dit qu'il s'agissait là d'une période qui dure encore, mais quand même, la première sens, c'est jusqu'à l'extrême, les a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement, où il a prouvé son amour jusqu'au bout, c'est dans l'œuvre de la croix. Et la suite nous montre également que cette pensée qui nous a été donnée, c'est que cet amour se perpétue, puisqu'il suffit de lire dans l'Épître aux Romains, quand il est parlé de ces croyants qui sont encore sur la terre, qui se demandent un petit peu pourquoi ils sont là au milieu des épreuves, eh bien nous est présenté Christ. Christ comme celui qui a été jusqu'à la mort. Je voudrais juste lire ce verset dans Romains 8. Romains 8 et au verset 34. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Cet amour qui a été prouvé jusqu'à l'extrême, eh bien aujourd'hui, cet amour ne peut pas nous faire défaut. Lui qui est allé jusqu'à la mort de la croix a été glorieusement ressuscité. Et dans le ciel, il accomplit cet office de souverain sacrificateur, d'intercession pour nous. Parce qu'il sait ce que nous sommes sur la terre, cette faiblesse qui nous caractérise et combien il est nécessaire qu'il intercède pour nous. C'est donc les siens ici. Mais si on continue dans l'évangile de Jean, on voit qu'il y a des caractéristiques pour les siens. On voit un peu plus loin qu'il les appelle ses amis. Et ses amis, qu'est-ce qui caractérise encore la relation d'amis? C'est d'abord l'amour. Et puis, il y a la confiance mutuelle, ces amis qui vont faire les commandements, qui vont accomplir ce qu'il va dire. Eh bien, des secrets vont être révélés aux amis. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 15 et les versets 13 à 15, ces amis. Mais après la croix, c'est encore plus, la relation est encore plus précieuse, si l'on peut dire. C'est va vers mes frères et dis-leur. Une relation maintenant de frères. Le Père, quand il est dit « Je monte vers mon Père », eh bien, c'est maintenant votre Père. Celui qui est son Père, c'est aussi notre Père. Nous sommes ses frères. Cette relation bénie de frères avec lui, eh bien, cela nous amène aussi une relation de Père, d'enfant avec le Père. Et le Seigneur Jésus a l'air de nous dire ici, dans ce chapitre 13, non pas quelque chose de notre responsabilité, mais lui, il désire que nous ayons une part avec lui. Il dit à Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Mais c'est comme le Seigneur qui dit, je voudrais que tu profites de cette relation que je veux avec toi. Je t'ai aimé, je vous ai aimé, je vous aime. Et je veux que vous goûtiez cet amour-là, que vous ayez une part. C'est pour moi, pour mon plaisir à moi, pour ma joie à moi d'abord. Et souvent, quand on pense à la purification, etc., on voit ce que nous avons à faire. Mais essayons de penser encore à ce qu'il fait lui. parce qu'il désire cela pour lui. Et peut-être quand on arrivera à ces versets, d'avoir une part avec moi. On a parlé de communion, mais peut-être c'est encore plus précis que cela, c'est encore plus que cela. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette part avec lui, qu'il désire?
Au premier chapitre de l'Épître de Jean, à l'égard du mot avocat, nous avons une note plutôt patron, le soutien et le défenseur des intérêts de ses clients. La position du Seigneur comme avocat est très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il a lui-même porté devant Dieu, devant son jugement et sa colère, les péchés qui ont été les nôtres. Voilà ce qui caractérise d'une manière spéciale cette position que le Seigneur a prise, et comme avocat, il peut alors plaider envers son Père pour nous.
Excusez-moi, au sujet de la souillure, on a dit que jusqu'à présent que c'était les manquements, les défaillances. Alors je pose la question, est-ce que c'est uniquement cela? Et est-ce que ce n'est pas une situation inéluctable du fait que nous marchons dans ce monde et que nous sommes, sans même participer aux œuvres de ce monde, nous sommes en contact avec ces choses-là? Le Seigneur, lui, se sanctifie pour eux. Ça veut dire qu'il s'en va. Chapitre 17, je me sanctifie moi-même pour eux. Il allait au ciel, séparer les pécheurs, comme c'est dit en hébreu. Et nous sommes encore dans ce monde et ne pouvons pas être spectateurs de ces choses affreuses qui se passent de plus en plus sans être nous-mêmes souillés. Si je dis ça, c'est en pensant à ce qui est dit, dans Romains 8, où il est dit, en Romains 8, d'une part, que nous sommes, délivrés de la condamnation du péché, plus de condamnation. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés, en principe, aussi de la puissance du péché, parce que nous avons l'esprit. Mais nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché. Et c'est ce qu'on voit dans Romains 8, au verset 23. Nous soupirons. Et si nous soupirons, ça ne pouvait pas rester insensible. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait d'être proche du péché nécessite ce lavage de pieds?
On a une image de ça, sans doute, lorsqu'il fallait être purifié simplement parce qu'on avait touché un os mort dans le désert. La souillure que nous contractons dans le chemin, ce n'est pas tellement forcément un acte mauvais, mais c'est aussi ce contact. Et le contact, ce n'est pas forcément être spectateur de péchés graves. Il y a un contact terrible que nous subissons tous dans le milieu professionnel, notamment. C'est le fait d'être dans un milieu où tout se décide avec des lois de l'homme, avec des niveaux de pouvoir qui s'affrontent, avec des choses où l'amour est absent. Et alors quand on a été pendant toutes les heures de travail dans un milieu comme ça, mais il y a un besoin terrible de retrouver ce qu'est l'amour selon le Seigneur et de se laisser laver les pieds, le laisser agir pour que il y a cette sensation de bien-être, d'être auprès de lui. Et le Seigneur vient, il agit, on l'a dit tout à l'heure, il commence à proposer, à prendre une position d'humilité comme d'abaissement, il ne va pas nous imposer cela, mais il vient, et puis il apporte l'eau. Et puis, si on refuse, parce que ça doit nous arriver de refuser, parce qu'on est pressé ce soir-là, parce qu'il faut faire quelque chose, parce que, je ne sais pas, nous avons quantité de motifs pour penser que ça va à peu près bien. Alors il insiste, comme il a insisté pour Pierre. Et puis quand le travail de l'eau est fait, il vient aussi avec le linge. Là, il y a une image, il y a une réalité. Après une longue marche, quand on se lave les pieds, l'eau fait du bien. Mais c'est après s'être essuyé les pieds qu'il y a une vraie sensation de bien-être. Et le Seigneur veut pour chacun d'entre nous qu'on soit bien avec lui, une part avec lui. Et quelle grâce de ce qu'il accomplisse, lui, ce travail secret pour chacun d'entre nous,
jusqu'à ce qu'il y ait cette joie de communion tout près de lui.
Il y a un cas encore, il me paraît plus particulier, c'est celui que nous trouvons dans Nombre 19, quand nous avons parlé tout à l'heure de cette eau de purification. Et nous savons que celui qui devait l'appliquer, le troisième jour, le septième jour, c'était un homme pur. Et c'était un service d'amour. Donc, si le Seigneur permet, nous y viendrons plus tard. Dans ce chapitre, justement, le Seigneur disant, vous devez faire comme je vous ai fait. Mais ce n'est jamais impunément, et nous devons, nous savons bien, hélas, que l'on est occupé de choses qui souillent. Et de cet homme pur, il est dit que celui qui avait fait aspersion, c'est dans le verset 21 du chapitre 19, celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Voilà, il y a donc du seul fait que l'on doit s'occuper de ces questions. Il y a une perte, si je puis dire, pour mon âme. Mais le Seigneur m'aime assez pour, en quelque sorte, prendre soin aussi. Et que la communion soit vraiment rétablie. Il n'est impur que jusqu'au soir.
Il convient de préciser aussi que ce n'est pas la présence du péché en nous qui souille, c'est son activité.
Le travail du Seigneur, son action, son activité en faveur des siens. Si nous regardons justement ce que sont les siens et ce qu'ils ont fait dans cette scène, alors nous voyons que de notre côté, il n'y a finalement que des obstacles à ce que le travail du Seigneur s'accomplisse. Tout d'abord, il a à s'occuper de ce qui, si cela n'était ôté, nous empêcherait de jouir notre part avec lui. Et puis même lorsqu'il le fait, on voit que les trois questions de Pierre montrent quels sont les obstacles qui sont présents et qui peuvent se manifester. Jusqu'au verset 3, les disciples sont rassemblés autour du Seigneur. Pour le souper, le Seigneur avait fort désiré cela, et il aurait pu sembler que tout était en ordre pour que le souper puisse avoir lieu, extérieurement. Les disciples n'avaient aucune idée qu'il faille autre chose pour passer à table et jouir de ce partage d'amour avec le Seigneur. N'étaient-ils pas les objets de l'amour du Seigneur ? Le Seigneur s'est rappelé dans les premiers versets. Mais le Seigneur voulait pour ses disciples quelque chose de plus. Il ne se contentait pas d'être réuni avec eux extérieurement sans que leur cœur puisse réellement entrer dans ses pensées à lui, dans ses affections, et avoir cette part commune, cette communion avec lui. C'est peut-être pour cela qu'il nous est dit, au début du verset 4, qu'il s'est levé du souper. Ça fait peut-être contraste justement avec l'acte de l'adulage des pieds qui avait lieu, comme on nous l'a rappelé habituellement, quand quelqu'un entrait dans la maison. C'était un acte de bienvenue, mais ici, ils étaient à table. Et c'est quelque chose qui a dû surprendre profondément les disciples, de voir que le Seigneur s'est levé. S'est levé du souper pour accomplir cet acte à l'égard de chacun d'eux. Et on voit justement par ces sept actions successives du Seigneur, depuis le moment où il se lève du souper jusqu'au moment où il essuie les pieds avec le linge dont il était saint, combien ce service que le Seigneur avait à accomplir envers ses disciples est un service difficile. Difficile en lui-même et plus difficile encore justement à cause de tous les obstacles qu'il y avait dans les cœurs de ceux auxquels il s'adressait. Et combien ça nous amène justement à nous arrêter pour dire, mais en quelle mesure est-ce que je me laisse effectivement approcher par le Seigneur pour que ce travail s'accomplisse réellement dans mon cœur. Puissions-nous nous laisser ainsi pénétrer par la pensée de la nécessité de ce travail. Et d'autre part, chaque fois justement que nous sommes réunis autour du Seigneur, qui nous rassemble, chers amis, est-ce que cette pensée ne nous pénètre pas que nous sommes là effectivement réunis d'une manière visible, extérieure? Mais qu'en est-il de l'état de nos cœurs devant lui? Et de quels soins avons-nous besoin de la part du Seigneur? Et combien de fois, lorsque nous venons nous asseoir ainsi dans sa présence, cette pensée ne monte-t-elle pas dans notre cœur, justement en réalisant que nous avons manqué à nous laisser laver les pieds d'une manière complète par le Seigneur comme il désire le faire, qu'il veuille exercer profondément nos cœurs à cet égard, de façon à ce que nous puissions être réunis pour goûter réellement ce qu'il veut nous faire goûter dans sa présence. La parole nous dit que dans les avertissements qu'ils ont donnés aux Corinthiens, que les croyants pouvaient être réunis même pour leur détriment. Et c'est un danger dont nous sommes, à l'égard duquel nous ne sommes pas à l'abri. Le Seigneur, quand ce qu'il désire être là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux, ne pense pas seulement au fait de rassembler les siens de manière extérieure, physique, pas du tout. Mais il veut les avoir dans l'état où il les place lui-même par le travail qu'il accomplit dans ce premier paragraphe.
Notre état, c'est notre état de cœur qui... C'est notre état de cœur qui prime. Souvent, on a peut-être trop souvent insister sur une bonne doctrine. Et bien sûr que c'est évident. Bien sûr que c'est évident que l'enseignement de la parole a de la valeur et que la doctrine a de la valeur et que ce qui est faux débouche sur quelque chose de faux dans la vie. Mais dans la présence du Seigneur, dans notre vie avec le Seigneur, ce qui est toujours présenté dans la parole de Dieu, c'est notre vrai état de cœur, notre communion avec lui. Et nous ne pouvons pas ne pas être attentifs à ces choses. Alors concrètement, Philippe a dit, c'est le Seigneur qui agit. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à faire. Mais nous vivons dans un monde où tout est fait pour que nous n'ayons pas une minute de libre, un moment avec le Seigneur, où tout est fait pour accaparer notre esprit, nos pensées, et ce qui accapare notre esprit, nos pensées, sans être forcément des choses mauvaises, dans ce monde n'est pas quelque chose qui va cultiver notre communion avec le Seigneur. Et nous avons besoin de ce temps avec lui. Le Seigneur s'est levé, et le Seigneur s'est approché de chaque disciple, de chacun d'eux. Et le Seigneur s'occupe de chacun des siens, de chacun d'entre nous. Comment le fait-il? Eh bien justement, peut-être, parfois en nous faisant ressentir la lassitude, un désir d'être près de lui. Ou nous prenons la parole, nous lisons la parole de Dieu et une ou deux pensées, quelque chose nous frappe, nous touche notre conscience, notre cœur, nous arrêtons. Il nous parle. Et alors, comme notre frère vient de le dire, y aura-t-il des obstacles, hein? Le téléphone qui sonne, un devoir à faire, quelque chose ou qui nous vient à l'esprit, et on se dit, ah, mais vite, il faut que je me dépêche, et on ne s'arrête pas. Et pourtant, il faut s'arrêter. Nous avons tous des obligations. Et nous sommes tous de plus en plus pris par ces obligations. Et même ceux qui sont à la retraite nous disent, je ne trouve plus de temps. Et que le Seigneur nous accorde vraiment de passer du temps avec lui. Il le désire, toi avec moi, moi avec toi. Cette part avec moi. Alors, Pierre, il va poser des questions. Et c'est extraordinaire de voir dans les évangiles et dans ces chapitres les questions des disciples. On pourrait presque dire, c'est tous des. Il y en a, elles sont toutes mauvaises. Des mauvaises questions, ils n'ont rien compris. Des obstacles en eux. Mais les mauvaises questions des disciples ont donné les bonnes réponses du Seigneur. Et l'enseignement que nous avons pour nous aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas mieux que Pierre. Loin de là. Mais le Seigneur prend soin de nous comme il a pris soin de Pierre. Tu n'as pas de part avec moi. Est-ce que tu veux une part avec lui? Et aujourd'hui, certainement, le Seigneur nous parle les uns et aux uns aux autres pour nous donner ce désir d'avoir une part avec lui.